Damien Chalamel, Jean-François Coulon-Désart et Gérard Gachet. Nous recevons Leslie Shaw, qui fait partie de l'entourage et des conseillers de Nigel Farage au Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni, donc, comme en France, les crimes et les attentats font désordre. Hein. Le pouvoir a trouvé la parade. Il a mis sur pied une unité secrète qui distille les éléments de langage corrects. Objectif, guider la communication de la police, imposer la manière dont la police aborde les drames du vivre ensemble auprès du public et étouffer, tempérer la parole publique des familles des victimes. Nous avons au téléphone Samuel Martin. Bonjour Samuel.
Bonjour Marc, bonjour tout le monde.
Vous êtes rédacteur en chef à Boulevard Voltaire, vous n'êtes pas anglais, hein, pas à ma connaissance, mais vous avez enquêté sur cette incroyable cellule anglaise, et tout est parti d'un drame. Racontez-nous, Samuel.
Oui, en fait, c'est la mère d'une victime, Rhiannon White, qui a été poignardée en 2024 à coups de tournevis par un migrant soudanais, qui a révélé il y a cette semaine, là, au Daily Mail, qu'en fait, à l'époque, la police l'avait incité fortement à modérer ses propos. Hein. Ça s'est fait en douceur, mais effectivement, elle a senti une légère pression pour ne pas être trop agressive après la mort assez atroce de sa fille. Et donc, ça rejoint, ça illustre ce que le Daily Mail avait révélé la semaine précédente sur l'existence du Research Information and Communications Unit, donc l'unité recherche, information et communication. C'est un intitulé assez vague qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui existe depuis 2007 et qui effectivement donne les éléments à la police et aux institutions pour contrôler le récit officiel. Ouais,
c'est ça. Donc c'est un organisme d'État, hein, c'est ça, un organisme public.
Oui, c'est une petite.
Bah nous, on a l'ARCOM en France, c'est pareil.
Oui, alors celle-là est plus discrète. Il y aurait une vingtaine de personnes. Ça a été fondé, c'est pas anodin, par un ancien officier du MI6. Hein, donc on est dans la manipulation et le contrôle, en tout cas l'influence. On est dans l'influence du récit.
Et donc, ce qui est incroyable, c'est qu'on est dans la manipulation des victimes, hein, Samuel.
Oui, parce que il s'agit. Alors ça se passe via la police, hein, mais donc la police reçoit les éléments de langage et incite fortement les familles des victimes à utiliser ces mêmes événements qui tentent évidemment à minimiser toute critique de l'islamisme et de l'immigration. En 2007, quand il a été créé, il s'intéressait surtout au terrorisme et donc il écrivait dans un document, cette unité produisait un document où on nous disait bien que le terrorisme n'est pas le produit d'une religion ou d'une communauté en particulier. Voilà, il fallait ne surtout pas stigmatiser. Ouais. Et document présentait toute une série de mots à ne pas dire. Donc il ne faut pas dire radicalisation, on dira lavage de cerveau, on ne dira pas djihadiste, on dira meurtrier. Et même il ne fallait pas faire de distinction entre modéré et radical, parce que ça pourrait être perçu comme une tentative de division de la communauté musulmane.
Extraordinaire. Donc c'est
extraordinaire. Akbar, on avait droit ou pas, non?
Ça n'était pas précisé en 2007, ce cri n'était pas encore aussi célèbre que de nos jours.
Voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de contrôler l'impact dans le grand public des meurtres et des faits divers, ce qu'on appelle des faits divers qui sont tout sauf des faits divers. Hein, parce que,
à l'origine, c'était le terrorisme, mais donc selon les révélations du Daily Mail, effectivement, la dernière intervention de cette unité, ça a été lors de la tentative de décapitation à Belfast par un migrant. Et donc là, effectivement, l'unité serait intervenue pour justement qu'on ne dise pas trop de choses désagréables vis-à-vis des migrants clandestins et autres.
C'est ça, vous dites qu'ils sont là pour contrôler le récit, quoi. Hein ?
Oui, tout à fait, exactement. Pour suggérer les bonnes tournures.
C'est ça, extraordinaire. Leslie Shaw, je me tourne vers vous. Est-ce que ça vous surprend? Vous connaissiez
absolument pas.
Cet organisme.
Les Britanniques sont passés maîtres dans l'art de la manipulation, mais je crois que vous avez à peu près la même chose en France. Quand les parents des victimes prennent la parole, c'est toujours pas d'amalgame, restons dignes, etc. Donc, je crois que c'est un phénomène qui dépasse les frontières.
Mais enfin, c'est quand même extraordinaire qu'il y ait des gens payés par l'État pour contrôler l'impact de faits, qui sont quand même des faits sur lesquels on devrait au contraire appeler dans une démocratie, appeler les gens à réfléchir, à s'interroger, etc. Damien Chalamel.
Oui, moi, cette histoire absolument incroyable, en fait, hein, dans une démocratie libérale, surtout,
c'est ça.
Surtout au Royaume-Uni, qui est quand même la première démocratie parlementaire au monde. Non, mais ça rentre en écho avec l'affaire qui est plutôt ancienne, hein, des grooming gangs, c'est-à-dire de ces gangs, de ces bandes de violeurs essentiellement d'origine pakistanaise, qui ont sévi pendant des années en toute impunité avec des victimes blanches mais paupérisées, clairement. Et pourquoi, on le sait maintenant, ont-ils pu ainsi prospérer dans leurs crimes? C'est parce que, venant effectivement de minorités, la police craignait d'avoir à stigmatiser les dites minorités en s'intéressant aux pratiques de ces bandes d'adultes avec ces pauvres jeunes filles défavorisées prolétariat anglais.
Oui, ça participe.
Donc ça rentre vraiment en écho avec ça, à mon sens. C'est
une évolution.
Mais j'allais dire,
également...
c'est même pire que cela. Parfois, il y a eu la complicité de la police avec ceux qui ont perpétré ces crimes.
Ouais,
c'est carrément la complicité.
C'est-à-dire
Par exemple, quand une jeune fille a été emmenée par ses parents au commissariat pour déposer une plainte, après avoir été violée par plusieurs hommes et battue, torturée, l'affaire était souvent classée sans suite, parce que selon la police, il n'existait pas suffisamment de preuves.
Mais les faits n'étaient pas établis, comme on dit en France.
Oui, enfin, ils classaient facilement, quoi. Ça a classé assez vite, absolument.
C'est la police qui classe ou le juge?
C'est la police.
C'est la police.
Au moment de la plainte au commissariat, quoi, comme en France. Oui. Hein. Samuel Martin, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, il faut ajouter que ce récit contrôlé, en parallèle, il y a de la part de cette unité de manipulation une mise en avant du danger de l'extrême droite. Ça aussi, hein, on connaît en France. Et il y a là-dessus un rapport indépendant qui a été remis à la Chambre des communes en février 2023, qui est très intéressant et qui montre que cette unité a systématiquement majoré les risques d'extrême droite et minimisé les risques du terrorisme islamique. Ça, c'est une première chose. Et que même était assimilé à de l'extrémisme de droite, des pensées ou même des ouvrages tout à fait conservateurs de droite qui n'ont rien d'extrême du tout. Donc il y avait vraiment la volonté de distraire l'attention des gens quant au danger de l'islamisme.
On est vraiment au cœur de la manipulation. Hein. On vous garde encore une seconde.
Oui.
Samuel Martin, Jean-François Coulon-Desart.
Oui, récit contrôlé, Samuel, pour vous, ça veut dire égal communication politique?
Ah, oui, c'est politique, parce que c'est la volonté de préserver l'idéal d'un vivre ensemble, d'un vivre ensemble de différentes communautés où tout se passerait bien, où il n'y aurait pas de problème.
Communication politique, c'est vieux comme le monde quand même. Hein. Ramsès II à la bataille de Kadesh, on voit encore ça, le creux d'Italie de Bonaparte, etc. etc. Je veux dire, c'est ça.
Mais là, on a une unité qui est gardée secrète. On pourrait penser presque que c'est du complotisme de l'imaginer, mais on a quand même ces traces officielles. Ce rapport indépendant de février 2023 qui est très long et très intéressant. Donc c'est tout à fait, c'est tout ce qu'il y a de plus officiel et on est vraiment dans une manipulation assumée, continue, puisqu'il existe depuis 2007, hein, donc ça fait quand même presque 20 ans et qui fonctionne à sens unique. Enfin, on voit bien que le but, c'est que au final, l'immigration et ses effets, ces violences, les attentats, qui sont liées, ne soient surtout pas stigmatisées, comme on dit dans le langage courant.
Ouais, ou stigmatisant. Jean-François Coulon-Desart.
Un mot, Samuel, comme vous êtes très bien informé sur la Grande-Bretagne, est-ce que vous savez quel est l'acteur anglais qui va incarner le prochain James Bond?
Non, je n'ai pas cette information.
Ah zut. C'était la question à 100 livres de Jean-François
Coulon-Desart.
Samuel Martin, merci infiniment. Je recommande
merci
votre article sur Boulevard Voltaire, Royaume-Uni, crime, attentat, une unité secrète distille les éléments de langage correct. À lire évidemment sur le site Boulevard Voltaire. Voilà, c'est très intéressant parce qu'on voit bien que contrairement à la communication politique qui de fait a toujours accompagné le pouvoir, là c'est un peu différent. Il s'agit de masquer la réalité de la décomposition complète dans une violence absolument infinie d'une société traditionnelle. On n'est pas au-delà de la communication politique, me semble-t-il. On est vraiment dans une entreprise soviétique.
Oui, entre communication et manipulation, effectivement, il y a une nuance.
Exactement. C'est ça. Là, on est, si vous voulez, les palissades sous Staline, vous savez, qui cachaient les quartiers.
Est-ce que le peuple anglais laisse les choses se faire avoir par cette communication?
Bonne question.
Eh bien, la mère
encore une fois, ça dépend de qui.
La mère de Ryan White, là, qui a témoigné auprès du Daily Mail, je pense que si elle témoigne aujourd'hui, elle a le sentiment de s'être fait avoir à l'époque. Parce que sa colère a été mise sous le boisseau avec presque sa propre volonté, puisqu'on l'a manipulé. Il n'y a pas d'autre mot.
C'est quand même très grave dans une démocratie. Merci infiniment, Samuel
Merci
Martin. On vous libère pour ce soir.
Merci Marc.
Leslie Shaw.
Même question. Est-ce que le peuple anglais a l'impression de se faire avoir ou il se rend compte qu'il se fait avoir?
Ça dépend de qui. Je dirais que pour la gauche, bien sûr, ils prennent ces éléments de langage au sérieux. Pour l'élite métropolitaine centriste, qui est effectivement dans le déni. Mais pour ceux qui sont un peu plus lucides, ils savent bien ce qui se passe. Il y a une nouvelle chaîne d'information maintenant, depuis quelques années, au Royaume-Uni, qui s'appelle GB News. C'est un peu comme CNews en France, mais c'est beaucoup plus à droite. Nigel Farage a son émission chaque semaine. Il y a d'autres députés de droite qui ont leur émission. Donc, sur cette chaîne, on démonte régulièrement les mensonges d'État et la propagande.
Très intéressant. GB News. Damien Chalamel.
Est-ce que le nom et le souvenir d'Enoch Powell est encore présent dans la culture britannique?
Voilà, alors il faut expliquer qui est Enoch Powell.
Enoch Powell, c'est un très brillant parlementaire anglais qui est passé à la postérité de tous les Européens, de tous les peuples du monde, je dirais, pour avoir prononcé le 27 avril 1968 un fameux discours, en la traduction en français, dit des fleuves de sang, et qui est un discours, le 27 avril 1968, qui
bien avant Le Pen.
Bien sûr, qui dénonçait de manière prémonitoire et avec talent la submersion migratoire dont faisait l'objet déjà le Royaume-Uni. Mais je peux en citer, en préparant cette émission, j'ai
quelques
phrases.
J'aimerais qu'on appelle Jean Bexon aussi, qui assiste aux manifestations.
J'engage les auditeurs de Radio Courtoisie à écouter ce discours qui n'a pas perdu une virgule.
Alors, une ou deux phrases.
Ou deux phrases.
Oui, pour des raisons qu'ils ne comprennent pas, en application de décisions prises à leur insu, pour lesquelles ils ne furent jamais consultés, les habitants de Grande-Bretagne se retrouvent étrangers dans leur propre pays. Le sentiment de discrimination, de dépossession, de haine et d'inquiétude, ce ne sont pas les immigrés qui le ressentent, mais bien ceux qui les accueillent et doivent continuer à le faire.
Voilà, le fameux discours...
En avril 1968.
Le fameux discours des fleuves de sang.
Et c'est ce discours qui a bien évidemment marqué sa marginalisation du Parti conservateur, dont il est devenu finalement la mauvaise conscience.
C'est vrai, c'était un visionnaire. C'était un visionnaire. Et tout ce qu'il a dit maintenant, on voit que ça arrive.
Absolument. Je vous engage à lire. D'ailleurs, j'ai consacré au moins un article très complet sur ce discours des fleuves de sang dans Boulevard Voltaire. Et c'est tout à fait stupéfiant de voir à quel point il a été visionnaire. En 68, il a vu la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Leslie Shaw, il y a des manifestations de plus en plus fréquentes contre l'immigration au Royaume-Uni, un peu partout. Et on va appeler, je voulais qu'on appelle Jean Bexon, qui est notre journaliste reporter à Boulevard Voltaire. Il a d'abord été à Southampton, dans le sud de l'Angleterre. Il a assisté aux manifestations qui ont suivi les violences après le 1er juin d'une vidéo de l'arrestation d'Henri Novak. Vous savez, ce garçon qui a été poignardé et les gendarmes ne l'ont pas cru. Il est mort de ses blessures. Et ça a provoqué des manifestations considérables d'indignation.
Non seulement ils n'ont pas cru, les gendarmes, mais ils l'ont menotté.
Ils l'ont menotté au sol, absolument, vous avez raison. Et donc, il avait été poignardé par un membre de la communauté sikh. Jean Bexon, est-ce que vous êtes là?
Oui, tout à fait. Est-ce que vous me recevez?
Bonsoir.
5 sur 5.
Bonsoir, Jean Bexon, on vous entend très bien. Question, qu'est-ce que vous avez senti? Vous avez assisté à ces manifestations, vous les avez couvertes, à Southampton, à Londres, à Belfast, c'était en mai-juin, à l'appel de Tommy Robinson et de son mouvement Unite the Kingdom. On ne parle pas anglais sur Radio Courtoisie, mais là, il faut le faire. Et voilà, ils étaient plusieurs milliers à manifester autour de la statue de Winston Churchill. Qu'est-ce que vous avez ressenti de la colère anglaise face à l'immigration, Jean Bexon? Qu'est-ce qu'ils disaient, ces Anglais? Qu'est-ce qu'ils manifestaient? Qu'est-ce qui les met en colère?
Ce qui les met en colère, c'est cette série de faits divers atroces, des faits divers qui, une fois agrégés, montrent un panorama, un contexte en Angleterre qui est anxiogène, c'est-à-dire une immigration incontrôlée, une immigration que les Anglais lient avec une augmentation de l'insécurité. Ces faits divers, vous en avez cité un, c'est celui de Henry Novak. Henry Novak, c'est atroce ce qui s'est passé. Si vous regardez la vidéo, il implore de l'aide auprès des policiers. Il est en train de saigner, il a une hémorragie. Et le policier, au lieu de vérifier son état de santé, va le menotter dans le dos. Certains médecins estiment que les actes posés par les policiers ont pu causer ou aggraver l'état d'Henri Novak et le mener, hélas, à son décès. Il va y avoir une enquête à ce sujet de l'IGPN version Angleterre. Et donc ce fait divers atroce, déjà, il a secoué les mémoires, il a secoué les Anglais, les Britanniques de façon générale. Et puis dans la foulée, en fait, de la diffusion de cette vidéo, qui est une diffusion qui est une bonne chose, ça permet de voir la vérité, la réalité de ce qui s'est passé. Dans la foulée, vous avez un Soudanais qui a tenté de décapiter un habitant de l'Irlande du Nord. Alors, d'Irlande du Nord, je pourrais dire Ulster, je pourrais dire Irlande. Je ne veux pas froisser ceux qui nous écoutent selon leur tendance. Ouais. Mais toujours est-il que, alors que vous soyez Irlandais catholique ou Irlandais loyaliste, protestant, ce fait divers a traumatisé toutes les...
Enfin, c'est ça. Et juste dans la foulée des manifestations qui ont suivi la diffusion de cette vidéo sur Henri Novak, il y a eu ce drame à Belfast qui a lui aussi suscité des manifestations. Donc est-ce qu'on sent une exaspération quand même très forte ou est-ce que ça reste très minoritaire et très partisan ou politique ces manifestations, Jean-Bexon? Vous y étiez, je le rappelle, vous étiez sur place.
Oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'y être envoyé par le BV, par vous, par Marc, par Gabriel, donc je remercie pleinement parce que c'était très intéressant d'être au plus proche du terrain. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que en France, on parle beaucoup de récupération politique. Moi, j'ai pas vu de bannière politique, j'ai pas vu de parti politique. Si j'ai vu certains, notamment une parlementaire qui est dans le parti de Nigel Farage, elle est venue à titre privé pour rendre hommage devant le mémorial floral de Henry Novak. Je pense qu'elle a le droit de le faire. Mais il n'y avait pas vraiment pas de stand qui était là pour faire de la récup partisane, militante. C'était des personnes qui, je pense, et il faut le souligner, ont le courage aussi de se mobiliser. Le courage, parce qu'en Angleterre, vous avez une répression policière qui est très forte. Vous avez des logiciels, par exemple, de caméras, de drones avec reconnaissance faciale. Quand je suis allé au mémorial
floral... C'est important que vous expliquiez ça, oui.
Oui, parce que, et c'est pour ça qu'en face, en fait, les manifestants, ça peut paraître terrifiant, mais ils se masquent parce qu'ils veulent contrer cette surveillance de masse qui va, enfin, vous inquiétez pas, ça va arriver en France prochainement. En France, il n'y a que la France insoumise qui lutte contre ces dérives liberticides. Alors, on peut évidemment critiquer la France insoumise, mais je les trouve extrêmement vigilants, en tout cas, sur les dérives liberticides. Je pense que c'est des thèmes qu'on devrait tous s'approprier. Mmh. Et en Angleterre, vous avez donc, devant ce mémorial floral, donc, c'était des fleurs déposées pour Henry Novak. Quand j'y suis allé, je vois au-dessus de ma tête, je pensais que c'était un énorme insecte. En fait, c'était un drone avec une caméra qui filmait toutes les personnes qui venaient rendre hommage devant ce mémorial, donc qui les filmait. Alors, j'ai trouvé ça hallucinant. J'étais marché dans la rue, je voyais le drone qui était téléguidé, qui me suivait. Puis quand je revenais, il revenait. Donc on vous montrait voilà ce climat de surveillance. Et donc je trouve que, et on ne dit pas assez, que les Britanniques qui se mobilisent, qui sortent dans la rue, je trouve qu'ils ont une forme de courage.
Ouais, c'est héroïque, hein.
Héroïque, c'est ça, parce que ils font partie de ce qu'on appelle la lower class. La labor class, ils sont ceux qui ont un emploi, s'ils le perdent, ils perdent tout. Et c'est pour ça qu'ils ont parfois des réactions qui peuvent paraître radicales. C'est que c'est des gens qui sont dans leur vie est une extrémité, c'est-à-dire qu'ils sont en début de mois, ils ont déjà plus de quoi tenir tout le mois. Ils sont en stress permanent, un stress économique, un stress sécuritaire parce que c'est les plus touchés. C'est comme en France, si vous voulez, moi personnellement, j'ai la chance de pas côtoyer l'insécurité tous les jours parce que j'ai la chance de faire partie d'un certain milieu favorisé, privilégié, mais je pense de même en France, vous avez des personnes qui sont sans cesse confrontées à la délinquance, à l'insécurité, et donc je ne vais pas juger certains propos qui en fait sont des réactions peut-être coup d'âme, mais en tout cas qui sont
ces résistants courageux. Merci beaucoup Jean Bexon pour votre témoignage. C'était important de savoir ce qu'il y avait un peu dans la tête et dans le ventre, hein, parce qu'ils sont courageux de ces manifestants anglais. Oui, parce que les pauvres, ils sont pas très bien nourris.
La fin du mois est difficile pour eux. Voilà. La fin du mois est difficile pour eux, je les trouve courageux. Voilà.
Merci Jean Bexon. Et à très vite, vous reviendrez sur cette antenne. Leslie Shaw, je me tourne vers vous. Les émeutes de Southampton en Angleterre et de Belfast en Irlande du Nord, c'était début juin 2026, et ça vient de se passer. Elles ont été qualifiées d'émeutes racistes. Avec quel regard est-ce que vous regardez ça? Est-ce qu'elles étaient soutenues par Nigel Farage? Est-ce que vous pensez que ça peut s'étendre, que c'est le début de quelque chose? Ou est-ce que c'est au contraire complètement non maîtrisé et le sentiment des gens, quoi?
Oui, mais tout d'abord, il faut dire qu'à la différence des Français, les Britanniques n'avaient pas l'habitude de faire des manifestations comme ça.
Ouais.
Mais depuis quelques années, notamment en raison de l'afflux des migrants qui sont logés dans les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, au sein des communautés, qui sont logés dans les maisons louées à travers les intermédiaires par l'État pour loger les migrants. Encore une fois, au sein des communautés, près des écoles, près des synagogues. Ouais. Et avec les attaques qui ont eu lieu ces dernières années, les gens commencent vraiment à avoir peur. Donc, les gens qui manifestent, ce n'est pas des voyous, c'est des mères de famille, des gens qui sont concernés par le climat d'insécurité. Il y a aussi le côté politique, ceux qui sont opposés à l'immigration, notamment menée par Tommy Robinson, qui est vraiment le meneur de toutes ces manifestations. Il fait régulièrement des grandes manifestations à Londres où il y a des centaines et des centaines de milliers de manifestants. Ça, c'est du jamais vu.
Dites-nous qui est Tommy Robinson et puis Jean-François Coulon-Desarts voulait intervenir. En deux mots, hein, Tommy Robinson. Alors,
Tommy Robinson, c'est un jeune homme issu de la classe ouvrière qui est très méprisé par l'élite. Il est considéré comme un voyou d'extrême droite. Sa cousine de 14 ans était victime des bandes de violeurs pakistanais.
Ah,
et en 2009, il était un des premiers à dénoncer ces faits. Donc, c'est un journaliste, mais un journaliste indépendant. Il ne travaille pas pour les médias, il fait des vidéos, des choses comme ça. Et au moment d'un procès d'un groupe de ces violeurs dans une ville moyenne en Angleterre, il attendait devant le tribunal avec son téléphone pour filmer et pour faire un reportage. En raison de cela, il était emprisonné. Il a été placé sous contrôle judiciaire, mais il a recommencé. Finalement, il s'est retrouvé en prison. À chaque fois qu'il se déplace, il est arrêté soit à l'aéroport, soit au port de Douvres. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le collimateur de l'État et des autorités britanniques.
Mais on a un peu l'impression que cette situation échappe complètement au gouvernement. Ils sont spectateurs, ils sont toujours en réaction. Quels sont les ordres qui sont donnés à la police pour contrer ces manifestations, entre guillemets?
Ça dépend de qui manifeste. Par exemple, quand il y a des manifestations pro-palestiniennes dans les rues de Londres, les ordres de la police, c'est de faire en sorte à ce qu'ils ne soient pas attaqués par les contre-manifestants. Donc il y a quand même une sympathie.
Il y a des manifestants protégés et des manifestants non protégés.
Il y a quand même une sympathie pour certains manifestants de gauche. Mais dès qu'il s'agit d'une manifestation pour la nation, pour le drapeau britannique, pour le peuple britannique, là c'est autre chose. Ils sont traités d'agitateurs d'extrême droite, de racistes, de fascistes, de nazis, tout ce que vous voulez. Donc, il y a vraiment un parti pris de la part du gouvernement de Keir Starmer. Bon, en fait, il n'est plus Premier ministre. Je pense que ça va être pire avec le nouveau. Mais
pourquoi?
Ils sont dans le déni du problème de l'immigration. Voilà. Et ils trouvent que ceux qui manifestent contre l'immigration, pour des raisons légitimes de sécurité, des parents qui sont inquiets pour la sécurité de leurs enfants, c'est quelque chose à réprimer.
Si je vous comprends bien, la Grande-Bretagne a vraiment été grignotée par le communautarisme.
Oui, oui.
Damien Chalamet. Moi, j'ai plusieurs questions. La première, est-ce qu'il y a des relations entre Reform UK, donc le parti de M. Farage, et la mouvance autour de Tommy Robinson, qui s'appelait auparavant English Defence League.
English Defence League.
Je ne sais plus si l'EDL existe en tant que tel. En tous les cas, ma question, c'est est-ce qu'il y a des relations entre les deux ou aucune?
Bien au contraire. Bien au contraire. Nigel Farage pestifère contre Tommy Robinson, même si, sur le fond, leurs objectifs sont identiques. Parce que Tommy Robinson est perçu comme quelqu'un d'extrême droite et Nigel Farage ne veut pas que son parti Reform UK côtoie des gens comme Tommy Robinson.
Mais c'est étonnant parce que ça fait penser singulièrement à ce qui s'est passé en France ces 40 dernières années où la droite classique a accepté de se séparer de manière hermétique on a appelé ça le cordon sanitaire du Front National d'alors, qui aurait pu tout à fait constituer, comme on l'a vu d'ailleurs dans certaines élections locales, le flotteur droit de la droite, au moins à une époque. On a l'impression qu'on assiste à ce même phénomène.
Sauf que Nigel Farage, c'est même pas la droite classique.
Oui, bien sûr.
C'est encore plus déjà...
Mais enfin, disons que c'est un peu le... C'était comme c'était il vient des rangs conservateurs, c'est un peu le... Celui qui... Alors la deuxième question que je vais poser, c'est une question très politique ponctuelle. Est-ce que vous pensez qu'à l'issue de la démission donc de Keir Starmer, est-ce qu'il y a est-ce qu'une dissolution est envisageable ou est-ce que vous pensez que la mandature actuelle, donc il reste encore 2 ans, je crois.
Oui, alors, 2029.
Est-ce qu'ils vont pouvoir se maintenir? Est-ce que le Parti travailliste va pouvoir se maintenir?
Voilà, c'est bien qu'on se tourne un peu vers l'avenir de.
C'est toute la question. C'est toute la question. De toute façon, pour que le parti travailliste survive, il fallait que Keir Starmer s'en aille. la base ne l'aimait pas, les parlementaires ne l'aimaient pas, même certains ministres de son cabinet ne l'aimaient pas. Donc il fallait absolument qu'il parte. Andy Burnham, il est plus populaire, il est beaucoup plus à l'aise avec la communication. C'est plus un homme du peuple dans
le roi de Liverpool.
Dans la tradition, oui, de Manchester.
Manchester.
Donc, on verra dans les prochaines semaines comment ça va se présenter. Est-ce qu'il va prendre le risque d'aller devant le peuple pour avoir un mandat?
Donc de dissoudre.
Oui, alors, oui.
Ouais, c'est pas évident.
C'est risqué pour lui, c'est risqué. S'il peut rester jusqu'en 2029, c'est peut-être...
Mais Leslie Shaw, quel est l'avenir de politique de Nigel Farage? Aujourd'hui, on a parlé de ce sondage qui nous dit que les Anglais regrettent amèrement le Brexit, mais comme par hasard, qui domine les intentions de vote au Royaume-Uni? C'est pas ceux qui regrettent le Brexit, c'est Nigel Farage qui l'a porté.
Je crois qu'il l'a obtenu.
Et il le domine de très haut, hein, de la tête et des épaules.
Les 200 et quelques derniers sondages, quel que soit l'institut de sondage, donne Reform UK en tête.
C'est ça.
Ça va entre 28, il y a eu un pic de 34-35% il y a quelques mois. Ça a descendu un petit peu. Mais là, avec l'arrivée de Burnham, Labour ou le Parti travailliste a monté de 10 points en quelques jours.
Ah.
Donc, comme il est, c'est l'homme nouveau du parti, peut-être il y a un effet nouveauté.
Est-ce que vous pensez que Farage sera un jour Premier ministre?
Oui, je pense. Si Reform UK gagne en 2029 ou lors de la prochaine élection législative, si ça vient plus tôt, il sera le chef du parti le plus important et il sera automatiquement Premier ministre.
Et donc, c'est pas impossible du tout.
Ah non. C'est au contraire. Mais la question, c'est que est-ce qu'il aura une majorité pour gouverner avec son parti? Ou est-ce qu'il faut trouver un arrangement avec le Parti conservateur, qui a baissé considérablement ces dernières années? Kemi Badenoch, le chef du parti, a dit absolument pas. Aucune chance de travailler avec Nigel Farage.
Le Parti conservateur a fermé la porte à toute alliance avec Farage.
L'autre question, et là c'est plus inquiétant pour Nigel Farage, Rupert Lowe était un des députés de Reform UK élu en même temps que Nigel Farage, Rupert Lowe.
Je vais vous en parler de Rupert Lowe, qui est un peu un Zemmour anglais.
Il était écarté du parti, soi-disant parce qu'il était trop radical sur les questions d'immigration. Il était aussi pour la peine de mort et des choses comme ça. Mais c'était plutôt pour des raisons personnelles. Il avait un conflit très personnel avec Nigel Farage. Il a ouvertement dit à un moment, alors qu'il était toujours membre du parti, que Nigel Farage était incapable à diriger le parti à l'avenir. Donc, bien sûr, il ne pouvait pas rester. Donc il a démissionné, il est actuellement député indépendant. Et il y a quelques semaines, il a créé son propre parti qui s'appelle Restore Britain, la Grande-Bretagne. Ils sont déjà, après quelques semaines d'existence, à 7-8% dans les sondages.
C'est impressionnant, j'ignorais ce chiffre.
Ce qui est frappant en vous écoutant, c'est les ressemblances
avec la situation française. Ah bah oui.
Alors que pendant un siècle, il n'y avait que deux partis, les conservateurs et le Parti travailliste. Il y avait des petits partis libéraux, mais qui comptaient pour rien. Donc vous avez... un pays qui, depuis plus d'un siècle, est gouverné par deux partis en alternance. Et là, tout est complètement chamboulé.
Ce bipartisme a explosé.
Oui, c'est très impressionnant. Donc, c'est une nouvelle ère qui se dessine pour le Royaume-Uni. Et une ère pas très favorable à l'Europe, ni à l'immigration, a priori, si Farage... En tout cas, l'influence de Farage, c'est nouveau. Quoi.
Oui, c'est probablement l'homme politique le plus influent de notre temps. Certainement. Si on a le Brexit, c'est grâce à lui.
Bien sûr. Oui, ça a été vraiment l'artisan du Brexit. Leslie Shaw, merci infiniment d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes un conseiller de l'équipe de Nigel Farage. Vous habitez en France, vous avez été professeur à Subdeco, entre autres, vous faites beaucoup de choses. Et vous nous avez apporté votre œil sur l'actualité anglaise, qui est assez méconnue des Français, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais d'assez loin. On ne connaît pas exactement la manière dont évolue la politique anglaise. Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon.
Non, juste
pour ceux que l'on désarme.
Oui, pour clore ce dossier, une question à 100 livres, pas pour vous, cher Leslie. Qu'est-ce que ça veut dire, messieurs, Brexit? Ça vient d'où?
Le Britain exit.
British exit.
British, si vous
voulez.
Vous n'avez pas gagné 100 livres, c'est tout.
J'avais la réponse. Voilà, c'était les quiz de Jean-François Coulon-Désart.
Et Marine Le Pen a repris ce terme avec le Frexit.
Absolument, absolument.
Voilà.
Je ne sais pas si c'est elle qui l'avait inventé.
Allez, nous aurons tout à l'heure notre clin d'œil culture. Moi, je vous parlerai du suicide français d'Éric Zemmour qui passe à l'écran, du livre à l'écran. Mais avant, pourquoi les écologistes sont-ils si frileux face à la climatisation?
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
La France étouffe, pas seulement sous le poids de la fiscalité, de l'immigration, de la violence et de la propagande pro-européenne. La France étouffe sous le soleil brûlant. C'est moins grave, mais c'est un sujet très révélateur. Car pourquoi étouffons-nous alors que nos voisins profitent bien plus largement que nous du confort de la climatisation? La réponse tient en quatre syllabes, c'est encore un exploit de nos écologistes. On va analyser cette exception française et ses responsables. On va entrer dans les méandres de cette idéologie avec vous, Philippe Charlaise. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Philippe.
Vous êtes un habitué de cette émission, vous êtes expert en questions énergétiques, vous avez écrit beaucoup de livres, notamment sur le réchauffement climatique et tous les problèmes de climat, vous avez de très nombreux diplômes que je ne citerai pas ici parce que sinon on ne finirait pas l'émission.
Ça humilierait les autres.
Ça humilierait tous ceux qui sont autour de cette table, à commencer par moi. Philippe, pourquoi la France est-elle si frileuse sur les sur la climatisation? Quel est le rôle des lobbies écolos dans ce sous-équipement français? Que vous répondiez, que le Japon et les États-Unis sont eux équipés respectivement à 91 et 90% de climatiseurs, on parle des foyers, hein. En Italie, c'est 56% des foyers qui sont climatisés, en Grèce et en Espagne, entre 50 et 60% des foyers qui sont équipés, et en France, on est à 24% seulement des foyers sont équipés de climatiseurs. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là, Philippe?
Alors avant de parler climatisation, peut-être un petit préambule.
Oui.
C'est donc de rappeler que le réchauffement climatique, face au réchauffement climatique qui est incontestable, hein, personne ne peut le nier, il est en marche et tout le monde le ressent. J'ai une chance.
Oui, ça c'est mesurable.
Je suis pour l'instant dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes, et figurez-vous que c'est le point le plus froid de France depuis une semaine, c'est-à-dire que globalement la température ici n'a pas dépassé les 30 degrés, tout simplement parce qu'on sait que c'est une vague de chaleur qui provient d'Afrique du Nord et qui finalement passe à l'ouest de Marseille, et donc c'est pour ça que ça n'a pas tellement toucher le sud-est de la France.
Pourquoi on n'a pas fait l'émission chez
Philippe hommes. Oui, on aurait dû faire l'émission chez vous. Hein. En tout cas, ce n'est pas lié à votre arrivée, parce que vous êtes un homme chaleureux, Philippe.
Alors, il faut rappeler que face au réchauffement climatique, qui est un problème sérieux, il existe deux solutions. Donc la première, qui s'appelle l'atténuation, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est une solution long terme, voire très long terme, puisque pour voir son effet, il faudra plusieurs générations. Et surtout, elle est mondiale, c'est-à-dire que si les Chinois, les Indiens et les Américains ne réduisent pas leurs émissions, l'effort des Européens, qui ne représentent que 7% des émissions mondiales, est sans grand effet. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'adaptation, c'est ce que l'homme a toujours fait face au climat, qui est une solution court et moyen terme, mais qui surtout est territoriale. vous venez de l'expliquer extrêmement bien, que certains territoires peuvent tout à fait s'adapter, par exemple via la climatisation, et d'autres pas. C'est une décision qui est nationale, voire même territoriale. On peut imaginer, d'ailleurs en France, compte tenu du passé climatique, il y a beaucoup plus de climatisation dans le sud, et notamment dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, que du côté de l'île, c'est une évidence.
Ouais. Et donc on n'est pas sans outils, hein, c'est ça que vous voulez dire.
On n'est pas sans outils. Alors il y a d'autres moyens, mais on va focaliser sur la climatisation pour rafraîchir l'intérieur d'une maison. On va parler de climatisation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe, depuis une dizaine d'années, a tout investi dans l'atténuation et très peu dans l'adaptation. L'Europe a investi 3 500 milliards d'euros dans l'atténuation, la France 750 milliards, mais a quelque part oublié de s'adapter. Alors que les émissions mondiales continuent de s'accroître, nous ne sommes pas adaptés aux canicules. Alors pourquoi ? Et là, vous l'avez dit, il y a une opposition officielle, idéologique, historique des écologistes à l'adaptation, qui disent en fait que s'adapter, ce serait pour eux une forme de renoncement. S'adapter, c'est accepter le réchauffement climatique et donc renoncer à le combattre. Ça, c'est le discours officiel. Mais derrière ce discours officiel s'en cache un autre. Comme toute la gauche, les écologistes sont profondément égalitaristes. Il faut donc que tout le monde soit égal devant le climat. Or, ouais, l'atténuation est mondiale, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on atténue pour tout le monde, alors qu'au contraire, l'adaptation, elle est profondément inégalitariste. Si vous avez les moyens de mettre un climatiseur chez vous, vous pouvez vous adapter. Si vous n'avez pas les moyens, vous subissez la double peine, puisque non seulement vous n'avez pas de climatiseur, mais comme le climatiseur renvoie de la chaleur chez le voisin qui, lui, n'est pas climatisé, vous vous rendez compte du côté inégalitaire. Et donc, on retrouve dans ce côté atténuation-adaptation un discours droite-gauche égalitariste et inégalitariste. C'est pourquoi la climatisation est de droite et la climatisation est haïe par la gauche. J'espère avoir été assez clair dans mon explication.
Très clair. Jean-François Coulon-Desart a une question pour vous, cher
Philippe. Oui, Philippe, si je suis votre raisonnement, que je partage d'ailleurs, tout le monde a intérêt à investir dans les sociétés de climatisation. Parce qu'avec le retard qu'on a à rattraper, il va falloir en mettre des climats.
Oui, sauf que la majorité des clims aujourd'hui sont fabriqués, devinez où ?
En Chine.
Absolument. En fait, aujourd'hui, la climatisation n'est plus la climatisation de nos parents, donc ces espèces d'énormes climatiseurs affreux sur les arrières des façades. Les climatisations sont en fait ce qu'on appelle des pompes à chaleur réversibles, c'est-à-dire que globalement, elles font du chaud l'hiver et du froid l'été. Un climatiseur pour une grande pièce de, allez, on va dire, d'une trentaine de mètres carrés, ça vaut de l'or de 5000 euros, donc c'est pas innocent d'un point de vue coût. Mais les quelques climatiseurs aujourd'hui produits en France sont assez rares. La grosse société produisant des climatiseurs s'appelle Daikin. Elle n'est d'ailleurs pas chinoise, elle est coréenne, mais il y a également de grosses sociétés produisant des climatiseurs en France, donc des pompes à chaleur, en Chine, très peu en France et très peu en Europe aujourd'hui. Et d'ailleurs, de nombreuses sociétés qui produisaient des climatiseurs parce que leurs prix sont trop chers ont malheureusement déposé le bilan.
Ça aussi, ça en dit long sur la situation française, l'Europe et la faillite industrielle de nos pays, c'est dramatique. Damien Chalabel.
Oui, moi, en complément, peut-être un bémol à ce que vient de dire notre ami Philippe Charlès, c'est que moi, il me semble, c'est
je
ne
savais
sentiment,
pas que vous étiez spécialiste au climatiseur.
Non, mais pas du
Damien
tout,
Chalabel.
Non, mais c'est, c'est les ressorts de la psyché nationale qui font pour les raisons qui expliquent ce retard français à la climatisation. Moi, je pense que les Français, plus ou moins consciemment, ont toujours eu conscience et peut-être même très heureux de vivre dans un pays au climat tempéré. On était Absolument. Dans un pays béni des dieux de ce point de vue-là. Et qu'on, contrairement aux pauvres Espagnols, aux pauvres Italiens, aux pauvres Grecs, nous n'avions pas à nous prémunir de fortes chaleurs. Il me semble qu'une part de l'explication des réticences de la France à la climatisation, elle est tout simplement de cet ordre-là. C'est plus de la psyché nationale.
Ah oui, c'est possible. Alors, est-ce que c'est le cas, Philippe Charlès ?
Non, je ne dirais pas la réticence, mais l'explication quant à la couverture de climatisation beaucoup plus faible en France qu'en Italie, en Espagne ou en Grèce, lui, il tient effectivement au climat. Si je prends l'exemple de mon pays d'origine, c'est-à-dire la Belgique, la couverture de climatisation est encore inférieure à la France aujourd'hui, tout simplement parce que, si vous voulez, quand vous viviez à Lille ou à Bruxelles, vous aviez parfois entre 4 à 5 jours de canicule par an. L'investissement d'une climatisation ne valait pas la peine. Aujourd'hui, on voit de plus en plus, notamment à Paris, hein, j'avais fait une petite enquête et on voit que dans les copropriétés parisiennes, il y a de plus en plus, puisque si vous mettez la climatisation dans votre appartement à Paris, vous devez mettre la pompe à chaleur doit toujours se mettre à l'extérieur. Donc à l'extérieur, c'est soit sur le balcon, soit dans une cour privative. Mmh. Et donc il faut l'autorisation de la part des copropriétés.
Ouais, du syndic.
Et les copropriétés ont vu au cours des 3 dernières années les demandes de climatisation dans les immeubles parisiens, notamment haussmanniens, exploser à Paris.
Oui, donc ça augmente, mais enfin, c'est quand même très long. Et y a quelque chose qui est assez fascinant aussi. Vous dites que les écologistes veulent dompter le climat et qu'il y a donc un espoir un peu prométhéen et un refus des lois naturelles de la part des écologistes. Voilà, il faut qu'on subisse que la punition. Hein, y a quelque chose d'eschatologique presque dans la position écologique.
Oui, alors ça, ça va bien au-delà du climat. Ce que je veux dire, c'est même essentiellement, ça fait partie du patrimoine génétique de la gauche. Hein. C'est Rousseau, en fait. Hein. Rousseau qui considérait que l'homme fait avec la nature un tout, c'est-à-dire globalement qu'il y a une entraide, un espèce c'est ce qu'on appelle l'hypothèse Gaïa, hein, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de fusion entre l'ensemble des espèces et même le monde non biologique, l'eau par exemple, etc., ferait un tout. Alors qu'en réalité, on sait, alors là on va pas rentrer dans le détail, mais selon les principes de la thermodynamique, qu'au contraire, les espèces et les systèmes au sens même, non seulement planétaire, mais même au niveau univers, sont en compétition les uns avec les autres, ce qu'on appelle des structures dissipatives. Donc c'est-à-dire que l'hypothèse Gaïa, qui n'est pas, quand vous dites prométhéenne, je n'aime pas trop, parce que société prométhéenne, c'est plutôt la société qui promeut la technologie, l'innovation, etc., alors que les écologistes sont plutôt anti-innovation, c'est-à-dire que globalement, l'homme doit se soumettre au climat. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Il y a certains écologistes qui voudraient donner
C'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose d'assez religieux. On le sent derrière cette écologie. Et là, vous le montrez. Hein.
Absolument. Certains écologistes veulent donner aux rivières et aux étangs un droit comme aux humains. Donc, c'est-à-dire que globalement, si vous avez certains, je ne sais pas si Damien Chalamel en a déjà entendu parler, mais donc on serait en droit ou bien de donner à certains animaux des droits juridiques pour lutter contre la maltraitance animale, etc., qui est quelque chose que je réprouve. Hein. Mais cela étant, en faisant le tout, donc c'est-à-dire que l'homme et l'animal feraient un tout, alors qu'on sait que pour que l'homme se nourrisse, ben, il faut qu'il mange des végétaux et des animaux, et quand vous mangez des végétaux et des animaux, c'est le cas. D'ailleurs, je disais que ça vous montre aussi, souvent, quand je fais des conférences et que j'explique que, justement, la nature est profondément inégalitaire, évidemment, vous avez peut-être des personnes de gauche dans la salle, ils hurlent
de colère. Ben oui, et de colère.
Donc, souvent, ce que je dis, c'est imaginer un océan où tous les poissons auraient la même taille et aucun ne peut manger l'autre. La chaîne alimentaire est complètement brisée et ils meurent tous. Et les derniers vivants sont d'ailleurs des charognards qui mangent les dernières carcasses. Voilà.
L'image est très amusante et très frappante. Vous m'en avez parlé quand on a préparé l'émission. C'est ça. Donc, c'est l'égalité. Hein. Les poissons tous de la même taille. Aucun ne peut se manger les uns les autres et ils meurent tous.
Une autre analogie qui est marrante, que Damien va beaucoup aimer, lui qui est un grand amateur de vin. C'est que l'égalitarisme ne peut converger que vers la pauvreté absolue. Et la meilleure image que vous pouvez donner, c'est que vous mélangez un grand cru et une piquette, et bien inexorablement, vous ferez deux piquettes, vous ne ferez pas deux grands crus.
Absolument. Voilà. Ben écoutez, voilà, c'est la philosophie selon Philippe Charlès.
En vous écoutant, Philippe, je pense qu'on a le droit et le devoir de faire disparaître les écologistes. Et c'est assez simple, finalement. Il suffit d'un bulletin de vote.
Ben, ça a déjà été le cas. Quand on regarde les dernières élections, qu'elles soient législatives, alors ça a été un peu caché par la NUPES, mais quand on regarde les dernières européennes, quand on regarde les sondages actuels, ils sont à 2 ou 3%. Ils sont très loin des 15% qu'avait fait Cohn-Bendit aux européennes de 2014, je crois. Donc ce que je veux dire, c'est que l'écologie est relativement passée.
Cher Philippe, vous avez raison,
pas dans les médias,
sur le plan électoral, mais ce qu'on constate, c'est que ce qu'on constate notamment avec cette histoire de climatiseur, c'est que leur influence est considérable, et ça n'est pas le seul domaine.
Par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est redevenu un nain électoral, mais avec un pouvoir de nuisance énorme. Ce sont les écolos qui, finalement, ont mis bas au nucléaire en Europe, ont failli mettre bas au nucléaire en France, mais ont fait disparaître le nucléaire en Belgique, par exemple, qui aujourd'hui n'a plus d'électricité, obligé d'importer l'électricité française au grand bénéfice d'EDF. Donc les écologistes, effectivement, ont eu au cours des dernières décennies un rôle de nuisance absolument invraisemblable. Et aujourd'hui, il y a un entrisme écologique aujourd'hui dans toutes les administrations, que ce soit les ministères, les écoles et même les entreprises.
Oui, c'est ça. Gérard Gachet.
Mais justement, au sujet du rôle des écologistes, que ce soit pour la climatisation ou pour d'autres usages, mais il faut quand même rappeler la responsabilité qui est à l'heure en France. Notre pays avait la chance, plutôt d'ailleurs il avait réussi par volonté politique, à conquérir une indépendance énergétique et avec en plus une énergie considérée comme propre grâce au nucléaire.
Interrompt Gérard Gachet. Une autonomie et une
autosuffisance.
Une souveraineté électrique, voilà. Pas une souveraineté énergétique. Parmi les énergies, le pétrole et le gaz continuent de compter pour 57%, et ça, on les importe et on les importait déjà avant.
Ouais,
mais par
sûr.
Rapport à cette souveraineté qu'on avait réussi à conquérir, notamment grâce au nucléaire, on s'est quand même vu confronté depuis quelques dizaines d'années à un véritable sabotage ou sabordage, on peut utiliser le terme que l'on veut. Je rappelle l'accord entre les Verts et François Hollande, même avant, quand on négocie avant l'élection de François Hollande en 2012, qui prévoyait déjà la fermeture de Fessenheim, alors que cette centrale était parfaitement viable, la réduction à 50% de la part du nucléaire dans le mix énergétique, cet accord qui avait été d'ailleurs patronné par Mme Ségolène Royal, il manque personne, et finalement, c'est Emmanuel Macron qui va l'appliquer scrupuleusement, alors qu'il pouvait très bien se permettre de revenir dessus. Il faut également rappeler l'attitude de Mme Voynet, en 2000, ministre de l'Environnement, qui est chargée de défendre le nucléaire à Bruxelles. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle désobéit à son mandat pour arriver au résultat inverse. Donc, on a l'impression que rien n'a changé, rien ne change, que ce soit à propos de la climatisation ou de tout ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer autour des problèmes d'énergie. Comme disait le regretté Charles Pasqua, les écologistes français, ils sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur. Ce sont des pastèques.
Ouais.
Oui, mais on est d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre conclusion finale. C'est-à-dire que globalement, c'est vrai que Macron a fermé Fessenheim, mais finalement, il a quand même fait, en disant qu'il n'avait pas changé d'avis comme d'habitude, il a quand même fait marche arrière en 2022 lors de son discours de Belfort. Avant le discours de Belfort, on était quand même sur la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. Ce n'était pas seulement Fessenheim. Suivait 14 réacteurs nucléaires qui, comme vous le dites, devaient arriver à faire du nucléaire moins de 50% de la génération électrique française. Et en fait, il a changé d'avis, un virage à 180 degrés, puisque de 14 réacteurs fermés, on en est à 6 plus 8, c'est-à-dire 14 réacteurs nouveaux à construire. Et de ce côté-là, la France, pour une fois, a quand même eu un rôle extrêmement positif au niveau européen, puisque je vais dire qu'elle a agrégé autour d'elle un certain nombre de pays pro-nucléaires, et le vent nucléaire aujourd'hui est plutôt favorable en Europe par rapport à ce qu'il était en 2020, par exemple. Donc, de ce côté-là, on a quand même bien gagné rapport aux...
Comme quoi, quand on n'écoute pas trop les écologistes, ça nous profite plutôt.
Canicule nucléaire, canicule nucléaire, ça ne fait pas très bon ménage. Hein.
Alors, canicule et nucléaire ne font pas très bon ménage, c'est vrai, avec restrictions. Effectivement, pour refroidir les réacteurs nucléaires, il faut de l'eau, et en absence d'eau, et quand il y a beaucoup de soleil, finalement, il y a beaucoup de solaire et on ferme quelques réacteurs nucléaires et ça se coince. Mais disons que la canicule, elle arrête la semaine prochaine et tous les réacteurs nucléaires se remettront en route. Donc on les a arrêtés une semaine, c'est quand même pas la fin du monde.
Philippe Charlez, merci beaucoup de nous avoir éclairé une fois de plus sur
À vous et puis je dirais bonnes vacances à tous puisqu'on ne se verra plus avant la rentrée.
Oui, absolument. Bonnes vacances. Profitez bien de la fraîcheur du sud de la France. C'était quand même assez particulier. Merci. Ça n'arrive pas tous les jours. Cher Philippe, profitez-en bien et à très vite.
Au revoir.
Au revoir, Philippe Charlez. Nous passons à notre clin d'œil culture. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qu'on va recommander cette semaine à nos auditeurs? Juste après ceci.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Allez, tout le monde a préparé cette petite recommandation culturelle pour la semaine. Cinéma, théâtre, livre, roman, etc. Damien Chalamel, par exemple, qu'est-ce que vous recommandez?
Moi, je vous recommande de la musique.
Ah, de la musique avant toute chose.
Je vous recommande d'écouter Radio France.
C'est pas fréquent.
Voilà, France Musique. 16 minutes d'une musique du passé inconnue. Qui fait irruption dans notre présent, qui manque tellement de beauté et de fraîcheur. C'est 16 minutes de musique inconnue, mais dont le génial auteur est connu, c'est le jeune Mozart.
Mozart
qui composa ces 16 minutes de duo, donc c'est un pour harpe et morceau pour flûte et harpe, en 1778, pour sa jeune élève, qui était la fille du duc de Guine, à qui il donnait des cours. Et ces morceaux inédits ont été découverts peu de temps avant qu'il ne prenne sa retraite par un certain François-Pierre Goy, conservatoire au département de la musique de la BNF. Et ces morceaux ont été joués le 21 juin pour la fête de la musique et sont maintenant disponibles sur le site de Radio France, morceaux pour harpe et flûte.
Merveilleux, c'est passé au moins une chose sublime, le soir de la fête de la musique. Merci Damien Chalamel, ce nouveau morceau de Mozart, vous a donné envie de l'écouter. Gérard Gachet.
Ben écoutez, moi je suis retombé en enfance, parce que entre la canicule, la fin de l'année scolaire, etc., on se retrouve facilement avec des petits-enfants dont il faut s'occuper, et comme il y a des espaces de fraîcheur bienvenus dans les salles de cinéma, on s'y retrouve. Et à voir des films qui leur plaisent, parce qu'on ne va pas les emmener voir des choses trop intellectuelles. Et donc, je me suis retrouvé ces jours-ci, devant deux films d'animation qui viennent de sortir. Il y a le Toy Story 5, 31 ans après le premier quand même, une saga qui dure. Et puis, il y a des Mignons et des Monstres, troisième film consacré aux Mignons.
Vraiment tombé en enfance.
Oui, j'ai regardé ça.
Non, Gérard, les petits-enfants.
J'ai regardé ça. Bon, les scénarios sont ce qu'ils sont. Je ne veux pas dire que ce soit toujours palpitant. Mais je ne suis pas vraiment cœur de cible. Mais en revanche, je veux dire que c'est techniquement extrêmement bien fait, ces films d'animation. On ne s'y ennuie pas. Et puis, l'essentiel, effectivement, les enfants étaient ravis.
Bon, et ben voilà, une bonne recommandation. Vous nous redites les deux films.
Toy Story 5, qui vient de sortir tous les deux. Toy Story 5 et Des Mignons et des Monstres.
Des Mignons et des Monstres, recommandés par Gérard Gachet. Jean-François Coulon-Désart.
Vous savez qui était cette jeune fille qui chantait, oh mon Dieu, il y a longtemps, déjà presque un quart de siècle, Joe le Taxi.
Ah oui, bien sûr, Vanessa Paradis.
Exactement. Bien, elle vient de sortir, elle a sorti il y a quelques semaines un nouveau disque que je vous conseille, il est absolument magnifique, notamment la chanson qui s'appelle « Les épines du cœur ». Vous allez adorer. Et puis, que j'ai dans ma besace aussi...
Composé par qui? Parce que souvent, c'est composé par d'autres.
Vous me posez une colle, je vous remercie, je vous rendrai ça.
Voilà, on a réussi à le coller quand même en fin d'émission.
Et puis, le magazine Schnock, qui est dans toutes les bonnes librairies, en kiosque.
Très bon magazine.
De 7 à 77 ans, c'est consacré ce mois-ci à Michel Berger et France Gall. et on apprend vraiment plein de choses. C'est un magazine qui revisite la France heureuse des années, bah, il part de très loin, de 60 à... De 60 à 90, on va dire. Voilà.
La France de Johnny. Ouais.
Voilà, exactement. Voilà. Et c'est vraiment très intéressant. France Gall n'était pas du tout cette petite poupée de cire, poupée de son qu'on croyait comme ça. C'était une femme vraiment exceptionnelle.
Excellent. Donc, Jean-François Coulon, c'était la recommandation de Jean-François Coulon. Moi, je voulais vous proposer de regarder Le Suicide français. De regarder, vous me dites, mais pas du tout, c'est un livre d'Éric Zemmour. Mais oui, c'est un livre qui ressort d'ailleurs en ce moment, mais qui a été mis en image avec la participation, évidemment, d'Éric Zemmour. Et donc, le livre a été paru en 2014 chez Albin Michel. Il est réédité aujourd'hui chez Fayard. Et ce livre a été mis en image. C'est rare pour un essai qu'on arrive à mettre un essai en image et en faire un documentaire. C'est ce qu'il a fait. Et donc, il est diffusé en 4 volets sur la chaîne. On peut le trouver sur la chaîne Planète Plus, dans l'offre de Canal Plus, avec la voix d'Éric Zemmour, mais aussi plein d'images d'archives, de tout ce que raconte notre ami Éric Zemmour, et qui s'ouvre, ce livre, sur le chêne déraciné. Vous savez, c'est la mort de De Gaulle, secousse tellurique dans la France des années 70. Et comment est-ce que de la France de De Gaulle a accouché de la France d'Emmanuel Macron? Eh bien, c'est exactement ce qu'il nous raconte en images, et c'est absolument fascinant, très intéressant, 4 volets à voir absolument, donc sur la chaîne Planète Plus. Donc dans l'offre Canal+. Voilà, restons courtois du vendredi, les amis, c'est fini. Merci à tous.
On n'a pas le temps de parler de Churchill.
Dans ce studio court, de Churchill.
Oui, vous connaissez ça. C'est un dîner après la guerre avec sa famille, il y avait son gendre. Et son gendre lui demande, mais dites-moi, beau papa, quel est l'homme politique qui vous a le plus impressionné? Vous les avez tous rencontrés. Il regarde, pose son cigare et il dit, Mussolini. Elle m'a dit, pourquoi? C'est le seul qui a eu le courage de faire fusiller son gendre.
Très amusant. Voilà, ça bouclera l'affaire. Je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir suivis, accompagnés, commentés. Heureux d'avoir passé ces 2 petites heures en votre compagnie. Comme Boulevard Voltaire, Radio Courtoisie, vous le savez, reste un miracle permanent et fragile qui ne vit que de dons. Aider Radio Courtoisie et aider Boulevard Voltaire dans le climat actuel, c'est un devoir. Restons courtois, c'est fini pour cette année, avec vous. Nous allons tous prendre des vacances bien méritées. Vous retrouverez Restons Courtois 17h30, 19h30 sur Radio Courtoisie dès la rentrée avec Boulevard Voltaire et toute la joyeuse bande. Mais sans moi, je vous dis adieu, ou plutôt à bientôt, puisque je quitterai Boulevard Voltaire dans quelques jours pour rejoindre le grand hebdomadaire conservateur Valeurs Actuelles. C'est donc notre dernière émission de la saison sur l'anecdote qui se termine sur l'anecdote de Jean-François Coulon-Desart. Je vous les remercier Radio Courtoisie d'abord, Pierre-Alexandre Bouclet, Richard De Cesse, pour leur confiance, pour leur amitié. Et puis, je voulais donner quelques pensées à ces chroniqueurs que vous avez appris à apprécier, comme moi, Jean-François Coulon-Desart ici présent, Philippe Charlès qui était tout à l'heure au téléphone, Damien Chalamel en face de moi, brillant comme d'habitude, comme tous, Gérard Gachet à ma gauche, mais c'est un hasard, Franck Herriot, Yves-Marie Sévillac qui sont pas là, on s'est merveilleusement entendu. Je crois que ça s'entendait aussi à l'antenne. Ça a été en tout cas un plaisir d'organiser cette émission avec eux. Et puis, je voulais vous remercier, chers auditeurs, pour vos participations, pour votre écoute, votre fidélité sans faille. Je vous retrouverai à Valeurs Actuelles, qui va changer. Pour une fois, pas de nous, on a déjà hâte, mais un au revoir et tous mes voeux de très bel été à tous les auditeurs en famille.
Ça suffit maintenant.